Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30 pile. Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, l'information politique du jour. Éric Zemmour accède au second tour de la présidentielle pour la première fois dans un sondage. Il obtiendrait 17% d'intention de vote et devance ainsi Marine Le Pen et les candidats de la droite. Le résultat du sondage est le décryptage de Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1. L'analyse du politologue Rémi Lefebvre. On sera en direct avec le préfet de l'Hérault. Il demande plus de contrôle de police pour stopper le port du voile islamique intégral dans les rues de Montpellier. C'est évidemment strictement interdit. Il soupçonne des pressions de la part de mouvements issus de l'islam radical. On va aller à Saint-Germain-des-Prés où a été célébrée la messe en hommage à Bernard Tapie. Il y avait l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy ou encore Brigitte Macron. On sera à Frévent dans le Pas-de-Calais où a eu lieu un rassemblement ce matin pour dire adieu à la petite Chanel, 12 ans, qui s'est suicidée la semaine dernière. Sa famille dénonce le harcèlement scolaire qu'elle a subi. Et puis Bond, James Bond, le dernier opus est sorti ce matin. On vous a tendu le micro à la sortie de la première séance.
Europe 1.
C'est un séisme actuellement dans tous les états-majors politiques. Pour la première fois, Éric Zemmour arrive deuxième dans un sondage, ce qui lui ouvre les portes du second tour de la présidentielle. C'est un sondage Harris Interactive pour Challenge. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Éric Zemmour arrive devant Marine Le Pen et tous les candidats de la droite.
Absolument. Si on regarde un tout petit peu le détail, donc ça donnerait Emmanuel Macron à 24%, donc au premier tour de l'élection présidentielle. Éric Zemmour qui arrive derrière avec 17% d'intention de vote, suivi de Marine Le Pen à 15%, Xavier Bertrand à 13% et ensuite Jean-Luc Mélenchon à 11%. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que si on regarde le deuxième tour, parce que l'information de ce sondage, c'est que Éric Zemmour peut se qualifier pour le deuxième tour de la présidentielle. Et donc, dans cette hypothèse-là, Emmanuel Macron l'emporterait face à Éric Zemmour à 55% contre 45%.
C'est une déflagration pour Marine Le Pen et pour les Républicains.
Absolument. Si on analyse les conséquences politiques, en fait, c'est un effet de blast à peu près pour tout le monde à droite. Ce sondage impacte donc tous les partis. Tout d'abord, Marine Le Pen, vous l'avez dit. Éric Zemmour qui continue de siphonner ses électeurs. Elle ne parvient pas pour le moment à enrayer la chute. De manière précipitée, d'ailleurs, elle vient de nommer ses 10 porte-parole de campagne ce matin. Ensuite, deuxième dommage collatéral, évidemment, c'est la droite classique. Même si Xavier Bertrand, le mieux placé de tous les candidats de la droite, arrive 4 points derrière Éric Zemmour. Et puis, vous savez, c'est très compliqué à droite en ce moment. Elle n'arrive pas à désigner son ou sa candidate. Et ce soir se tiendra un bureau politique officiellement pour organiser la surveillance du mode de désignation du candidat. Mais évidemment, tous ne penseront qu'à l'impact d'Éric Zemmour dans l'électorat. Et puis, si on s'arrête un instant sur la droite classique, si on revient sur l'impact à droite, ce qui fait mal, en fait, c'est qu'Éric Zemmour dit vouloir parler aux anciens électeurs du RPR, c'est-à-dire, en fait, la base de l'électorat LR. Et ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont déçus par la droite molle. Ça, ce sont les propos d'Éric Zemmour.
Louis, il y en a un dont on ne parle pas, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui va être candidat à sa réélection, a priori.
Eh bien oui, et pour Emmanuel Macron, ça change absolument tout. Il rêvait de se retrouver face à Marine Le Pen, parce qu'il était sûr de pouvoir la battre. Alors face à Éric Zemmour, vous savez, Éric Zemmour, c'est un candidat insaisissable, imprenable. Emmanuel Macron ne sait pas très bien comment le prendre, d'autant plus que Éric Zemmour l'attaque frontalement sur l'immigration, sur son bilan, sur la sécurité. Et donc pour Emmanuel Macron, voilà, ça crée énormément d'instabilité politique. Et donc c'est globalement une assez mauvaise nouvelle pour lui.
Merci Louis Dragnel. On est en direct avec le politologue Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à Lille 2. Bonjour Rémi Lefebvre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Midi. C'est une première, un homme qui n'est pas un politique et qui arrive si tôt et si haut dans les sondages avant une présidentielle.
Oui, voilà, c'est étonnant, c'est qu'il est non issu du sérail comme Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire que finalement, on voit peut-être se profiler un nouveau phénomène de dégagisme ou d'émergence d'un candidat hors du sérail politique lors de cette élection. Même s'il faut être très très prudent, évidemment, parce qu'on est encore très loin du premier tour de l'élection présidentielle, mais comme vous l'avez bien dit, cette émergence au deuxième tour de Zemmour, elle va avoir des effets très importants sur l'offre politique, sur les camps, autant du côté du Rassemblement National que, effectivement, des Républicains.
Ce qui est intéressant à noter, c'est que les arguments anti-Éric Zemmour sont à peu près les mêmes que ceux qu'on entendait pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire, il n'a pas d'équipe, il n'a pas de programme économique, il n'est pas du sérail politique, même si Éric Zemmour est un journaliste politique, mais il n'est pas un homme politique.
Oui, effectivement, c'est un peu les mêmes critiques. Alors, bon, je dirais quand même que Emmanuel Macron, à ce stade, avait plus de ressources. Hein. Il avait quand même été ministre de François Hollande. Il avait beaucoup de réseaux dans la haute fonction publique. Il était aussi porté par les milieux économiques qui souhaitaient finalement, qui voyaient en lui un outil, un levier de modernisation et de libéralisation de l'économie. Bon, c'est vrai que Zemmour, à lui, a du capital médiatique et il a effectivement aujourd'hui une capacité à orienter l'agenda politique et à polariser les points de vue, mais ce que ça démontre effectivement, c'est qu'il y a une aspiration profonde dans la société, toujours au dégagisme et à l'idée qu'il faut aller chercher en dehors de la politique de nouvelles têtes, de nouvelles élites.
Merci beaucoup Rémi Lefebvre, merci d'avoir été en direct avec nous. Il est 12h35, les réactions politiques. Écoutez ce que nous a dit il y a quelques instants Gilbert Collard, député européen du RN.
On va avoir droit au sondage du matin au soir. Hein. Moi, je ne tire aucun enseignement des sondages, parce que si les sondages disaient la vérité, ben, la Dure aurait été président de la République, Trump n'aurait pas été élu président de la République, et ainsi de suite. Donc, il faut être très, très prudent. De toute manière, à un moment donné, il faudra bien que l'un ou l'autre nous passions sur le pont pour aller rejoindre ou l'un ou l'autre. C'est la condition de la victoire contre Emmanuel Macron.
Voilà Gilbert Collard qui a donc répondu aux questions d'Alexandre Chauveau. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce sondage Harris Interactive pour nos confrères de Challenge. Notez bien que Éric Zemmour sera l'invité de Laurence Ferrari dans Punchline à 18h sur Europe 1 évidemment et également sur CNews. Un ancien président de la République, la femme de l'actuel président de la République, des chanteurs, des hommes de télévision, des hommes d'affaires, des personnalités de tous les milieux sont allés dire adieu ce matin à Bernard Tapie, à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Zoé Pallier avec nous. Le panel des invités, Zoé, est à l'image de la vie qui a été celle de Bernard Tapie, hein, éclectique et riche.
Oui, c'est ça, ils sont arrivés un peu avant 11h, avant en fait que le cercueil n'entre dans l'église, avec dans l'ordre Claude Lelouch, Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy ou encore Basile Boli. Et derrière les grilles, une centaine d'admirateurs venus, eux aussi, rendre hommage à l'homme aux mille vies. Francis est arrivé parmi les premiers ce matin.
Saluer sa mémoire d'entrepreneur. Il a été audacieux toute sa vie, puisqu'il a entrepris, il a quand même sauvé beaucoup d'entreprises. Ah ouais, c'est un mec, il n'est pas insensible.
Neji attend lui aussi devant les portes de l'église, une rose blanche à la main.
C'est une personne qui a compté beaucoup dans ma jeunesse, qui a toujours été combatif. C'était un exemple pour nous. C'est pour ça que j'ai pris une journée pour venir lui rendre un dernier hommage. Il fallait que je sois là.
Dans la foule, il y a beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille. Yannick, par exemple, tenait à porter le deuil.
Du coup, j'ai mis l'OM noir par rapport aux circonstances. Voilà. Entre l'OM et Bernard Tapie, c'est une histoire d'amour. Depuis 86 et même jusqu'à sa mort, on a toujours pensé à lui dans ce dernier combat. Il est né à Paris, il va être enterré à Marseille. Je pense que c'est une belle image.
Voilà, des admirateurs frustrés pour la plupart de ne pas pouvoir assister aux obsèques de Bernard Tapie vendredi à Marseille.
Zoé Pallier, beaucoup d'émotions également ce matin au rassemblement en hommage à la petite Chanel, 12 ans. Elle s'est suicidée la semaine dernière dans le jardin de sa maison. Pour la famille de cette petite fille, ce drame est lié au harcèlement scolaire que subissait l'enfant. Maxime Carlier, vous avez assisté à ce moment douloureux ce matin.
Oui, effectivement, Romain, environ 400 élèves, parents d'élèves, enseignants ont participé à cette marche, suivie d'une minute de silence. Beaucoup de personnes avec des t-shirts blancs et plusieurs messages. Protégeons nos enfants, stop au harcèlement. Des photos de Chanel, il y en avait également. Cette fillette de 12 ans, blonde, cheveux frisés, un visage rond, des yeux en amande. Crystal et Lindsay sont les deux sœurs de Chanel.
C'était une petite fille beaucoup renfermée, donc nous parler, voilà, beaucoup de fierté pour parler. Elle nous protégeait tellement en fait qu'elle ne nous disait rien. On se rendait compte qu'elle n'aimait pas l'école, ça on peut le dire. Il faut que ça bouge, il faut que tout ça s'arrête. On ne doit pas avoir peur d'aller à l'école, même enfin, les réseaux sociaux, tout ça, c'est partout du harcèlement, il faut que tout ça s'arrête, c'est pas possible.
On se moquait de son sac, d'après les deux sœurs, qui veulent continuer à se battre. L'enquête, elle, se poursuit. Et pour le parquet d'Arras, il n'y a pour l'instant aucun élément qui vient confirmer la thèse d'un harcèlement scolaire.
Il est 12h39, voilà, c'était Maximilien Carlier dans le Nord pour Europe 1. Restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on ira à Rome, au Vatican, pour la réaction du pape après la remise du rapport Sauvé. Et puis, on ira dans l'Hérault. Le préfet de l'Hérault a choisi Europe 1 et Europe Midi pour parler. Il demande aux policiers de mieux contrôler, de verbaliser les femmes en burqa qui se promènent dans les rues de Montpellier. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h42, on est au lendemain du tsunami provoqué par la remise du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Le pape a pris la parole ce matin. On part tout de suite à Rome, retrouver Blandine Hugonnet. Et quels ont été les mots du pape? Il a fait part de sa honte avec insistance, hein.
Ah oui, c'était tout à l'heure, hein, pendant la traditionnelle audience générale du mercredi au Vatican devant les fidèles. Après avoir déploré le nombre considérable d'agressions et de violences sexuelles commises par des religieux sur des mineurs en France, le pape s'est adressé aux victimes et a prononcé plusieurs fois ce mot de honte. Écoutez.
Je désire exprimer aux victimes ma tristesse et ma douleur pour le traumatisme qu'elles ont subi et aussi ma honte. Notre honte, ma honte, pour la très longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations, c'est le moment de la honte.
Et voilà ce message fort du chef de l'Église catholique qui fait écho aussi à la honte exprimée hier par les responsables religieux français. Il les a encouragés à continuer à faire des efforts pour que ce type de drame ne se répète plus. Ce sujet tient à cœur au pape. On a d'ailleurs appris que juste avant cette audience, ce matin, François a tenu à partager un moment particulier avec 4 évêques français en visite ici à Rome. Ils ont prié ensemble, en silence, au Vatican pour les victimes des abus commis au sein de l'Église.
Au lendemain donc de ce tsunami, le constat désormais, on le connaît tous, il est effroyable. Maintenant, il va falloir que des décisions soient prises. Virginie Riva avec nous. Virginie, bonjour.
Bonjour.
Des chantiers ont déjà été lancés par l'Église de France. Hein.
Oui, alors déjà sur la reconnaissance de responsabilité, la Conférence des évêques de France a admis en mars le principe de sa responsabilité à différents niveaux, sans parler de reconnaissance systémique. Mais c'est les religieux et religieuses de France qui sont allés le plus loin, parlant d'une responsabilité collégiale et spirituelle. Qui dit reconnaissance implique aussi réparation. Sur la question de l'indemnisation financière, un fonds a été créé côté évêque de 5 millions d'euros. Il risque de ne pas suffire selon le nombre de victimes qui vont se manifester. Et Jean-Marc Sauvé demande que ce ne soit pas une somme forfaitaire, mais qu'elle soit adaptée au vécu de chaque victime. L'Église devrait sous peu annoncer la composition d'une instance indépendante qui attribuera une aide individualisée. Autre chantier déjà lancé depuis des années, la gestion des personnes victimes comme des prêtres agresseurs. Certains diocèses comme à Paris sont plus avancés que d'autres. La Commission recommande de publier un rapport annuel, des cellules d'écoute des victimes beaucoup plus professionnalisées, un tribunal pénal canonique national pour juger les agresseurs. Ce tribunal est prêt. Les évêques attendent simplement le feu vert de Rome. D'autres chantiers vont être étudiés puis votés d'ici un mois. Mais tous les chantiers qui touchent plus à Rome, comme sur le secret de la confession, que la Commission ne veut plus absolu, risquent d'être beaucoup plus complexes à mettre en œuvre.
Virginie Riva, merci Virginie.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
12h45, on part tout de suite dans l'Hérault. Je voulais vous avoir avec nous, monsieur le préfet Hugues Moutou, dans Europe Midi. Merci d'avoir accepté l'invitation, bonjour.
Bonjour,
vous
monsieur.
Vous demandez aux policiers de contrôler et de verbaliser les femmes en burqa dans les rues. Comment en êtes-vous venu à rappeler qu'il était interdit dans notre pays de porter cette tenue islamique ?
Écoutez, j'ai remarqué que plusieurs jeunes femmes ces derniers temps dans le centre-ville de Montpellier se promenaient avec un voile intégral de type niqab qui leur couvrait l'intégralité du visage. Donc c'est un rappel à la loi, rien que la loi, mais toute la loi, surtout lorsque cette loi vise à défendre les valeurs de la République. Donc j'ai rappelé tout simplement, en demandant aux policiers d'effectuer des contrôles et de sanctionner le port du voile intégral. C'est une interdiction qui est clairement établie par la loi. Je crois qu'à l'occasion de l'adoption récente de la loi du 24 août 2021 qui vise à lutter contre le repli communautaire, nous avons la charge, naturellement, de sanctionner les personnes qui portent ce symbole d'oppression et de séparatisme.
Vous soupçonnez que cette recrudescence de burqa n'a rien de spontané ?
Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Je sais simplement que c'est un acte de revendication identitaire, de prosélytisme et de repli communautaire. Et donc, je crois que nous sommes testés et qu'il est de mon devoir. Je suis un acteur engagé au service de la République et de la défense des valeurs républicaines.
Qu'est-ce que vous donnez comme consigne aux policiers qui hésiteraient à se lancer dans un tel contrôle? Si la jeune femme se rebelle, si elle se fait filmer, ça peut créer des polémiques, aller sur les réseaux. Qu'est-ce que vous leur dites?
Écoutez, qu'elle se fasse filmer, les interventions des forces de l'ordre sont très cadrées, ce sont des frais professionnels, et ils sont là pour faire appliquer et respecter la loi. Voilà, donc je crois qu'ils sont conscients de ce phénomène, et je pense qu'il faut intervenir justement rapidement pour montrer qu'on ne lâchera rien et qu'on ne laissera pas passer ce comportement qui est illégal.
Merci beaucoup, monsieur le préfet. Hugues Moutou, préfet de l'Hérault, merci d'avoir été en direct avec nous. Très bon après-midi en direct dans Europe Midi. C'est aujourd'hui la journée nationale des aidants, ces personnes qui apportent leur aide à un proche âgé, dépendant ou handicapé. Un quotidien souvent très lourd, souvent très difficile, surtout quand ces aidants sont également salariés, qu'ils ont une activité. Alors depuis un an, il existe un congé aidant rémunéré, mais dont l'utilisation reste assez marginal, Carole Ferry. Hein.
Écoutez, je vais vous donner un chiffre. Il y a 11 millions d'aidants en France. Cela représente un Français sur 6 environ. Plus de la moitié a une activité professionnelle. Et pourtant, en un an, 5 000 aidants seulement ont demandé ce congé. Alors, il permet quoi? Eh bien, de s'absenter pendant 3 mois renouvelables. Mais il reste des obstacles. D'abord, certes, la journée est désormais indemnisée, une cinquantaine d'euros par jour. C'est une avancée sociale, mais le montant est souvent insuffisant par rapport à la perte de salaire. Et puis, les salariés craignent d'être stigmatisés, même dans les groupes en pointe sur le sujet. C'est le cas du groupe Casino. Séverine Amargier est responsable de la politique handicap et reconnaît avoir du mal à sensibiliser à ce congé aidant.
Je perçois parfois quelques appréhensions de la part de salariés qui, par pudeur, ne souhaitent pas communiquer sur leur situation. Et c'est vrai qu'on a assez peu de salariés qui ont opté pour le congé de proche aidant. Malgré le fait qu'on ait une politique relativement ancienne sur le sujet et qu'on communique sur le sujet de l'aidant.
Par ailleurs, le gouvernement travaille à simplifier les démarches, encore très fastidieuses, pour obtenir ce congé auprès de la CAF.
12h49, restez bien avec nous dans Europe Midi dans un instant. James Bond, le dernier James Bond. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous entendrez les premières réactions à la sortie des séances du matin. Et puis on va parler d'une première, en tout cas depuis, on n'avait pas vu ça depuis 1974. Ça remonte, deux frères dans l'équipe de France. Et oui, deux frères, les frères Hernandez dans l'équipe de France. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Quelques notes de musique et vous savez évidemment de quoi on parle. On parle du dernier James Bond. Évidemment, on part tout de suite au cinéma MK2 Nation. C'est à Paris. Le dernier James Bond, Mourir peut attendre, est sorti ce matin en France. C'est toujours un événement. Et Océane Théard a interrogé des spectateurs qui nous ont donné leurs sentiments. Écoutez.
C'était surprenant. Pour une fois, il y avait du jeu dans James Bond. Un peu de jeu d'acteur, donc c'était cool.
Les effets spéciaux, l'intrigue, James Bond en lui-même.
C'est la fin pour Daniel Craig, donc ouais, forcément c'est quelque chose d'un peu émouvant. C'est effectivement le James Bond qui moi m'a le plus touché. Spontanément comme ça, c'est pas forcément le plus avec le plus de cascades, avec le plus d'effets spéciaux, mais par contre oui, c'est celui qui m'a en fait moi le plus touché. Ouais.
C'est une belle sortie, ce qu'on s'est dit à la fin du film, c'est beau. Pour la suite, écoute, on verra bien.
Sûrement une femme, justement, c'était ce qui était prévu et c'est justement ce que ce film laisse espérer, c'est chouette, c'est complètement légitime, ça peut être une belle suite justement.
Voilà, qui sera le prochain James Bond? Suspense. Cédric Chasseur, vous allez voir le prochain James Bond, vous?
Évidemment, je vais aller me presser de ce pas dans un cinéma.
Allez, on va vous parler maintenant de quelque chose qui ne s'est pas produit depuis 1974, la présence de deux frères dans l'équipe de France de foot. C'était les frères Revelli à l'époque, et demain soir face à la Belgique, ce seront les frères Hernandez. Alors Cédric Chasseur avec nous, on espère que Didier Deschamps va les faire jouer en même temps sur le terrain pour la belle image. Hein.
Oui, d'autant que Lucas, 25 ans, et Théo Hernandez, 23 ans, n'ont plus joué ensemble depuis leur adolescence au sein des équipes de jeunes de l'Atlético Madrid. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent donc sous le maillot bleu pour le plus grand plaisir de Lucas.
Quand t'es petit, tu peux t'imaginer pouvoir jouer au foot avec ton frère, d'essayer d'arriver au niveau professionnel avec ton frère, mais d'atteindre les Bleus, je pense que tu peux jamais rêver ça, et c'est vrai que c'est un moment incroyable, et voilà, j'espère profiter bien de ce moment-là.
Alors au début des années 2000, alors qu'ils n'ont qu'une dizaine d'années, le père de Lucas et Théo, Jean-François Hernandez, ancien joueur professionnel, les abandonne. C'est leur mère qui prend alors en charge leur éducation.
Quand on était petit, elle était là à tout moment. C'est elle aussi qui nous ramenait à l'entraînement, qui nous portait. Et puis voilà, on a dû travailler, prendre un chemin différent, chacun faire sa vie. Et puis grâce à ça, ben on est ici ensemble.
Blessé en septembre avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez avait manqué la première sélection de son frère lors du dernier rassemblement. Pourront-ils fêter cette fois leur premier match ensemble sous le maillot bleu contre la Belgique? Réponse demain soir.
Merci Cédric. France-Belgique demain soir. 12h55, le temps.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
La météo avec vous, Anissa. Dadi, Anissa, de plus en plus de soleil cet après-midi. Hein.
Oui, ça fait du bien, enfin. Ah oui. De bonnes nouvelles. Le temps change, il s'améliore et le soleil arrive effectivement, Romain, sur les trois quarts des régions cet après-midi. Avec quelques passages nuageux tout de même. Hein. Ce n'est pas un soleil qui brille dans un ciel totalement radieux, mais je vous rassure, ces nuages sont inoffensifs. C'est entre le Roussillon et la Côte d'Azur, hein, le long de la Méditerranée, que le soleil est le plus généreux dans un ciel totalement dégagé. Mais si le ciel est dégagé, c'est qu'il y a du vent. Et le vent, il souffle fort au bord de la Méditerranée, jusqu'à 90 km/h sur les côtes varoises et 130 km/h sur le littoral corse. On a du Mistral et de la Tramontane également. C'est dans le nord cet après-midi, sur les Hauts-de-France et les Ardennes, que les nuages sont les plus menaçants, avec encore quelques petites ondées jusqu'aux Alpes du Nord. Voilà, c'est dans l'extrême nord-est que la journée sera la plus grise et la plus maussade. Côté température, ça baisse, il fait frais, couvrez-vous. 14 à Saint-Étienne et Lille, 16 degrés à Clermont-Ferrand, 17 à Paris et Rouen, 20 degrés à Marseille et Bordeaux, 23 à Nice et 24 la maximale pour Antibes.
Merci Anissa, 12h56. Merci d'avoir choisi Europe 1, Europe Midi. On est bien ensemble, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bon après-midi sur Europe 1, à demain.